Mode d'emploi, l'émission hebdomadaire d'AC Agir ensemble contre le chômage. Sur FPP, fréquence Paris pluriel, 106.3 MHz, à 20h30, tous les vendredis.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission d'AC, AC c'est Agir Ensemble contre le chômage, l'émission mode d'emploi. Vous pourrez retrouver le contenu de cette émission sur notre site www.mode-d-emploi.net et vous pouvez également nous contacter au 01 40 05 06 10 01 40 05 06 10 sachant que ce soir nous recevrons au téléphone pour une fois un invité exceptionnel qui est Régis Sérange. Il est l'auteur de l'ouvrage Flic de supermarché, l'espion qui venait du rayon frais, tout un programme, et là il raconte de façon absolument stupéfiante son parcours en tant qu'agent de sécurité, où on constate que les grands hypermarchés et les grandes enseignes ont des méthodes qui bafouent complètement le code du travail et sont dans la totale et la plus complète illégalité. Il est aujourd'hui en procès avec son ancien employeur, donc qui est le groupe Carrefour, qui représente plusieurs dizaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires. On y reviendra. Mais tout d'abord, dans cette première partie, bonsoir à toi Ludovic.
Bonsoir.
On va évoquer les chiffres du chômage du mois d'août, puis le chômage réel et le chômage officiel. On fera un petit sujet là-dessus. Et enfin, il faut revenir, parce qu'en ce moment, il y a les négociations, nouvelles négociations au niveau de du plan UNEDIC. Enfin, quelles seraient éventuellement les propositions du MEDEF? Mais donc, sans plus tarder, ensuite, on passera, après une petite pause musicale, à l'interview de Régis Sérange, si vous le voulez bien. Et ensuite, dans une troisième partie, on reviendra sur les notions d'assurance chômage privé, ainsi que les nouveaux outils de chiffrage de l'INSEE, entre autres, si on a le temps, parce qu'évidemment, avec Régis Sérange, on ne sait pas combien de temps durera l'interview, sachant que c'est un sujet majeur et qu'il y a eu très peu de sujets qui ont été faits, même y compris dans la presse, sur toutes les problématiques des supermarchés de façon globale. Et là, c'est vraiment un témoignage exceptionnel. Puis alors, je vais commencer par les chiffres du chômage du mois d'août, Ludovic, qui serait à peu près
combien? Oui, alors écoute, paraît-il, le chômage a légèrement remonté au mois d'août, pas grand-chose, on est revenu à 9%, c'est bien entendu les chiffres officiels, sachant qu'en fait, le taux de chômage prend toujours en compte la catégorie 1, c'est-à-dire les chômeurs qui travaillent moins de 78 heures par mois. Voilà, donc ce qui est à peu près l'équivalent d'un mi-temps. Tous ces gens-là sont considérés comme des chômeurs et le chiffre s'établit à 2 159 700 chômeurs. Les explications du ministère du Travail sont que principalement ce sont les nouveaux arrivants sur le marché du travail, les jeunes qui sortent de leur scolarité, qui se sont inscrits à la NPE au mois d'août, puisqu'effectivement le taux de chômage des moins de 25 ans reste très important, il est à 21,6%, c'est le double de la moyenne nationale. Alors évidemment, on va pas s'étendre sur les commentaires, hein, ou sur les excuses ou sur tout ça, mais il faut savoir quand même que sur les un chiffre qui n'est rapporté, qui est rapporté nulle part dans la presse, à part peut-être dans l'Humanité, c'est que 50% des radiés, les radiés représentent 50% des sortants du chômage pour le mois d'août. Ce qui signifie que la machine à radier fonctionne à plein et que c'est elle qui contribue à faire baisser le chiffre du chômage. Et d'ailleurs, pourquoi il y a autant de radiés en ce mois d'août? C'est tout simplement que les chômeurs sont partis en vacances sans les avoir déposés à la CEDIC et ils ont reçu leur convocation, bien évidemment, auxquelles ils n'ont pas pu répondre et ils ont été automatiquement radiés. Sachez-le pour la prochaine fois, messieurs les chômeurs, vous devez vous inscrire. Vous devez signaler à la CEDIC que vous prenez vos vacances.
On avait d'ailleurs évoqué dans une précédente émission, au mois de fin juillet ou début juillet, la nécessité absolue de devoir indiquer ses prises de congé sous peine des radiations. Alors, c'est pas étonnant, quoi. Effectivement, ce système-là a fonctionné.
Disons que il faut que vous preniez l'habitude, d'une part, parce que vous avez droit à 5 semaines de congé quand vous êtes au chômage, comme tout salarié. Et auparavant, vous pouviez estimer qu'il n'était pas nécessaire de le signaler, à ceci près que depuis que les contrôles, les convocations mensuelles ont été mises en place, vous pouvez être convoqué à n'importe quel moment, hein, recevoir une convocation très très vite, et donc vous tombez évidemment sous le coup d'une radiation si vous n'y répondez pas.
Bien. Je te remercie Ludovic. Alors on va tout de suite passer à notre sujet principal puisque j'ai monsieur Régis Sérance qui est l'auteur de Flics de supermarché en ligne. Bonsoir monsieur.
Oui, bonsoir.
Alors vous êtes un ancien agent de sécurité qui raconte les missions d'espionnage que le groupe Carrefour vous commanditait pour contrôler les salariés et des agissements manifestement commis en toute égalité, illégalité. Je rappelle qu'aujourd'hui, d'après les données que vous m'avez transmis, vous êtes aujourd'hui en procès auprès de votre ancien employeur.
Disons que ils m'ont fait un procès parce que j'avais commencé à raconter mon histoire sur un blog. Donc ils m'ont attaqué de manière à me faire taire, en gros. Et aujourd'hui, ben oui, je suis en procès avec eux. Oui.
Alors je le rappelle pour nos éditeurs qui nous écoutent actuellement, le groupe Carrefour c'est près de 60 milliards d'euros annuels de chiffre d'affaires, 420 000 salariés et quelques 10 000 magasins à travers le monde. C'est un des plus grands groupes importants de la grande distribution actuellement.
Je crois que c'est le plus grand, il me semble.
Pourtant, au départ, quand je lis votre témoignage, ce qui est absolument sidérant, c'est qu'au départ, on vous proposait une simple mission de sécurisation, c'est-à-dire simplement ce qu'on appelle le vigile dans un supermarché. Je crois que c'était à Écully.
Voilà, ouais, moi j'étais agent prestataire pour une société privée hein, qui évoluait dans une galerie d'un des supermarchés. Et j'étais simple agent de sécurité et puis les choses ont fait qu'avec le temps les gens du groupe m'ont fait confiance par rapport à mon travail et m'ont balancé dans des affaires un petit peu plus délicates.
Est-ce que c'est une pratique courante au niveau des enseignes de la grande distribution de mettre en externalisation, c'est-à-dire faire appel à des opérateurs privés pour tout ce qui est mission de sécurité?
Quasiment tous les magasins en France aujourd'hui emploient des sociétés de sécurité privée, hein, ça c'est clair. Ils ont un service interne et le service prestataire. Donc ça on le trouve dans tous les magasins, oui.
C'est-à-dire que c'est quelque part une forme de pare-feu déjà qui est établie dans l'organisation de ce type de pratique.
Oui, c'est pour mettre des barrières entre le personnel interne et les gens de l'externe. C'est pour qu'il n'y ait pas de mélange en fait.
Très bien. Est-ce que, alors effectivement, on peut le comprendre parce que, outre votre mission de surveillance, vous nous dites que vers juin 2002, si je ne m'abuse, on vous demande de faire un peu plus des missions un petit peu particulières. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques indications, puisqu'au départ, vous nous étiez qu'en simple vigile de surveillance?
On m'a proposé, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, au vu de mon travail, on m'a proposé une éventuelle place dans le groupe. Avec des possibilités d'évolution, des choses comme ça. Donc moi, j'ai dit oui, effectivement, ça m'intéresse. Et à partir du moment où j'avais mordu à cet hameçon-là, on est venu me proposer des missions d'infiltration, de surveillance, d'espionnage de personnel, toujours en me disant, bah oui, si cette place t'intéresse vraiment, effectivement, ça serait bien que tu nous rendes service. Donc j'ai joué un peu le jeu, j'ai joué beaucoup le jeu même, et puis j'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé.
Il faut dire que d'après, on vous proposait quand même la méthode, c'était un petit peu la carotte, c'est-à-dire que derrière on vous proposait une forme de CDI, puis je suppose des primes substantielles.
Ouais, c'est ça, ouais. J'avais ma rémunération normale, et j'avais aussi une rémunération au résultat.
Très bien.
Il fallait faire du résultat.
Donc,
il fallait trouver ce qu'on nous demandait de trouver.
Donc là, c'est plus du tout. On n'est plus du tout dans une mission de police, de recherche de la vérité par rapport à des faits établis, mais bien quelque chose qui, une vérité qui est plus ou moins extra large, si je puis dire.
On est surtout dans du montage de dossiers. C'est plus du montage que de la réalité. Hein. Quand on vous demande de surveiller des personnels à l'extérieur de leur emploi pour savoir ce qu'ils font, je pense que on n'est plus dans le cadre du travail. On n'est plus dans une mission qui consiste à préserver les intérêts du groupe ou du magasin. Quoi.
Je vous passe Ludovic, journaliste à Fréquence Paris Pluriel.
Oui, bonjour. Vous pouvez nous donner quelques exemples précis des missions que vous avez
eu? J'ai eu des missions d'infiltration un petit peu partout en France. C'est-à-dire qu'on me présentait un petit peu comme un stagiaire, comme un cadre, des choses comme ça. Et je me déplaçais un petit peu dans les magasins et on me confiait des missions, c'est-à-dire... j'ai eu des missions pour trouver. Il y en a eu une où effectivement il y avait un gros réseau de personnes qui trafiquaient de la marchandise. Mais beaucoup de missions ont été de monter des essais sur des cadres, c'est-à-dire de les surveiller, d'apporter des éléments de manière à pouvoir s'en débarrasser. Donc à moi, par la suite, j'ai bien compris le système, c'est que c'était des gens qui coûtaient cher, qui étaient sous les anciens contrats, et qu'il fallait s'en débarrasser parce que apparemment c'était plus la politique de les conserver, quoi.
Et c'était essentiellement contre les cadres ou contre tout le personnel?
Essentiellement contre les cadres. Les missions étaient essentiellement contre les cadres, mais on avait aussi des missions pour piéger du personnel. Parce que comme il y a un score à tenir entre tous les magasins, c'est-à-dire que le magasin qui fait le plus de personnel, eh ben, il est en tête des scores. Donc les responsables sécurité sont prêts à tout pour faire tomber du personnel. Donc là, on fait du piège, on met des caméras cachées, on fait de...
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret? Parce que là, on est en pleine science-fiction, c'est en pleine chose où le code du travail, où l'inspection du travail n'existe plus, où l'état de droit n'existe plus, ce qui est extrêmement grave.
Mais parce on est en France, il n'existe pas le droit du travail. Moi, c'est le pouvoir de l'argent, point, basta. Il n'y a rien d'autre. Piéger les gens, c'est facile. Vous voulez piéger des hôtesses de caisse, on leur mettait des appâts, on va leur faire glisser un billet à une caisse avant qu'elles prennent leur travail, et puis on va les mettre sous surveillance, et puis la fille va prendre son poste de travail, elle va trouver un billet de 20 euros sous sa caisse. Elle a deux réactions, soit elle le prend, elle l'amène à la caisse centrale et là elle s'en sort bien. Soit elle se dit, il est à personne, je le mets dans ma poche et elle est virée sur le champ.
Pour vol, je suppose.
Pour vol, bien sûr, oui, on fait une interpellation, on appelle les gendarmes et puis elle est accusée de vol.
Mais est-ce qu'il y a dans toutes ces pratiques, vous étiez en train de dire tout à l'heure qu'à la limite, vous étiez obligé de faire du chiffre parce que c'était mieux pour les agents de sécurité, c'est ce que vous avez dit.
C'est faire du chiffre, faire du score, il faut faire du score. Il faut être les meilleurs.
Donc vous êtes en fait, vous avez pratiquement été employé à virer les gens, quoi. Quelque part,
ouais,
à contribuer à virer
ouais,
les gens.
Ça, ouais. Ouais,
vous nous indiquez dans cet ouvrage, qui est quand même un témoignage assez exceptionnel, puisque je crois que c'est une des premières fois, je me souviens, il y a quelques années, il y avait la rédaction de Marianne qui, sous couvert d'anonymat, avait fait un dossier très important sur les pratiques de la grande distribution, mais là, vous êtes vraiment le premier en France à vraiment témoigner sur ce sujet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Flic de supermarché, l'espion qui venait du rayon frais. Aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui a fait ces grands groupes à amener à avoir ce genre de pratique? Parce que c'est quand même du délire, parce qu'on est quand même dans un état de droit, même si vous dites que le droit n'est plus là. Est-ce que c'est tout un système, une façon de s'organiser, une atmosphère, une ambiance qui fait que, ben oui, mais il y a le droit et puis il n'y a plus le droit?
Une fascisation de l'industrie.
Je pense qu'il faut être conscient que dans ce milieu-là, ben, tout le monde vit sous pression. Hein, il y a aussi bien les cadres que le personnel. Et qu'ils sont prêts à tout pour être les meilleurs. Il y a une énorme pression. Pourquoi ils en sont arrivés là, j'en sais rien. Et puis, je pense aussi qu'il y a un réseau de personnes qui se connaissent bien, qui organisent tout ça.
Vous voulez dire que ça vient de la tête de l'entreprise, en fait, en quelque sorte?
Ouais, mais il y a des gens dans ce business qui sont pas à leur place, qui sont des flicaillons ratés ou je ne sais quoi. Et qui veulent absolument se faire mousser. Et puis, ils sont prêts à tout. Ça a été jusqu'aux caméras dans les toilettes ou des choses comme ça. Donc
là, c'est extrêmement grave. Alors, moi, j'ai une autre question à vous poser par rapport à ce système qui s'est mis en place. Est-ce que c'est pas aussi un peu à cause d'une politique ultra-libérale, c'est-à-dire le fait qu'on est obligé de faire du résultat, du chiffre, avoir une croissance à deux chiffres tous les ans, et que ça, c'est une pression tellement insupportable que on perd tous les repères?
Mais c'est clair, mais la pression elle est énorme. Elle est énorme, on le voit bien de façon dans le milieu de ce travail-là. Enfin, pour ce que je connais moi de la grande distrie, on le voit, la pression est tellement énorme que les gens sont prêts à tout et puis tout le monde craque, quoi. J'ai des témoignages, c'est hallucinant, quoi.
Vous pouvez nous donner un exemple très concret d'une hôtesse de caisse qui a été par exemple licenciée et qui a fait une dépression, choses comme ça?
Je prends l'exemple du livre où on avait une hôtesse de sécurité qui était une personne sympathique, peut-être trop, qui était un petit peu proche des gens des syndicats et dont il fallait se débarrasser. Hein. À partir du moment où une personne de la sécurité se rapprochait un peu du syndicat, il fallait pas la garder. On lui a tendu un piège tout simple. Hein. On lui a préparé un porte-monnaie avec de l'argent liquide dedans. Et puis on lui a fait apporter le porte-monnaie à son pointeau sécurité, en sachant que la procédure veut qu'habituellement Quand on amène un objet trouvé, on reste à deux pour faire l'inventaire de l'objet trouvé et le noter dans une main courante, de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème. Or, ce jour-là, on a préparé un porte-monnaie avec de l'argent qu'on lui a amené et on l'a laissé seul avec. Donc, on avait mis les caméras en place sur elle, et la laissant seule avec un porte-monnaie de l'argent, c'était une personne qui avait des difficultés financières, elle a vu l'argent. J'excuse pas son geste, mais ça a été une provoque tellement facile. Elle s'est retrouvée seule avec ça, l'argent dans le porte-monnaie, elle a pris l'argent, elle l'a mis dans sa poche, et puis elle a rien noté dans le cahier, voilà. Et puis elle était filmée en cachette, surveillée, et puis elle a été interpellée. Elle a été emmenée toujours hors procédure dans le bureau du chef sécurité, alors que la procédure veut qu'elle soit emmenée dans un local sous surveillance vidéo pour pas qu'il y ait de problème. Oui. Donc là, elle a été emmenée dans un bureau fermé, avec trois personnes, et une personne derrière elle, une sur le côté, une devant, bien sûr le chef, qui lui fait avouer son délit, et qui, pour lui faire croire qu'elle va s'en sortir, lui dit « maintenant j'ai besoin d'un papier, vous allez me faire sur tout de suite, vous allez m'écrire sur cette feuille que vous êtes harcelé par telle et telle, par une personne ». Donc la fille, se sentant prise au piège, elle a signé ce papier.
Oui.
Et après qu'elle ait signé ce papier, on lui a dit « maintenant tu redescends ». On l'a redescendu dans le PC sécurité qui était sous surveillance. On a recommencé la procédure devant les caméras. On a appelé les gendarmes, elle a été embarquée. Et le papier qu'elle a signé a servi à faire virer un employé pour harcèlement.
D'accord. Okay. C'est pratique. Aujourd'hui, est-ce que les personnes qui sont victimes de ces pratiques absolument hors du temps et hors de toute règle et état de droit arrivent à se rebiffer ou alors elles sont vraiment cassées?
Est-ce qu'il y a des procédures judiciaires?
Il y a des gens démolis. Moi, j'ai rencontré des gens qui sont. J'ai rencontré certaines personnes qui ont été mes victimes parce que je considère que j'en suis responsable. Ces gens-là sont cassés, ces gens-là sont sans espoir et ne voient pas de sortie honorable à ce qui leur est arrivé.
Mais il y a eu des procédures judiciaires dans ces cas-là ?
Très peu, très peu. Il y a certaines personnes, notamment des cadres qui ont été jusqu'au prud'homme, mais des hôtesses de caisse ou des gens qui ont été maltraités comme ça a été le cas, elles n'ont pas envie qu'on en parle, elles n'ont pas envie d'aller devant les tribunaux. En sachant qu'on va les accuser de vol et de choses comme ça, elles n'ont pas envie.
Mais à leur rencontre, je veux dire, des procédures judiciaires à leur rencontre dans ce cas-là. Quand la gendarmerie.
Comment
les... Des procédures judiciaires à leur rencontre pour vol, lorsque les gendarmes viennent la chercher.
Il y a un dépôt de plainte. De toute façon, il y a un dépôt de plainte contre elles. Donc ces personnes-là ne veulent pas se retourner contre le groupe. Elles préfèrent laisser l'affaire comme elle est et puis se faire oublier. Donc il y a très peu de retours, en fait. Il y a très peu de personnes qui se rebellent. En fait, il leur serait tellement facile de demander, rien que au moment où elles sont prises, il serait tellement facile de dire donnez-moi la preuve vidéo, en sachant que quand c'est des coups montés comme ça, ce sont des caméras cachées, et la preuve vidéo n'est même pas valable, quoi, elle n'existe pas.
Et depuis que vous avez sorti votre livre, vous avez eu, disons, des appels, il y a des gens qui se sont groupés.
J'ai eu de contact, j'ai eu pas mal de témoignages ces derniers temps. Et je suis en train de préparer un petit recueil de témoignages pour le blog que j'ai mis en place, parce qu'il est important aussi que les gens puissent s'exprimer et raconter un petit peu ce qu'ils ont vécu. Et je sais aujourd'hui que ça dérange pas mal le groupe.
Bien sûr, et peut-être qu'ils peuvent s'inquiéter de procédures collectives qui iraient un peu plus loin que, disons, simplement les prud'hommes ou des choses comme ça, c'est-à-dire pour avoir enfreint la légalité à maintes reprises.
Je vous sais, c'est difficile. Hein. Moi, je le vois dans mon cas où j'ai à me défendre contre le groupe aujourd'hui qui m'attaque. J'ai rencontre d'énormes problèmes pour me défendre. Hein. Il faut payer les avocats, il faut payer. C'est pas évident. Hein. Ils misent là-dessus, ils ont les moyens d'écraser tout le monde. Donc, c'est un peu le pot de fer contre le pot de terre. Quoi.
Écoutez, Régis, je pense qu'à Agir ensemble contre le chômage, on fera une petite annonce, d'abord un commentaire sur le site, sur votre livre, parce qu'il est édifiant. Donc le moins, je pense que le message et puis la parole doit passer le plus possible par rapport à ça. Hein, je rappelle le titre de votre livre, Flic de supermarché, l'espion qui venait du rayon frais. C'est à quel éditeur, s'il vous plaît ?
C'est Jean-Claude Gazevitch, éditeur à Paris.
Vous pouvez peut-être donner l'adresse de votre blog aussi, peut-être, ça peut intéresser
les
éditeurs.
Oui, http://. g-des-choses-a-dire.over-blog.com. Et moi, j'invite les gens à laisser des commentaires, mais qu'ils soient favorables ou défavorables, parce que j'accepte aussi la critique. Je comprends parfaitement que les gens ne puissent...
On mettra un lien sur notre site, évidemment, le site de mode au pluriel -d-d'emploi.net, parce que effectivement, ça nous semble assez édifiant et c'est un témoignage assez exceptionnel. J'ai une question encore à vous poser. Le groupe Carrefour vous attaque pourquoi ?
On ne m'attaque pas pour diffamation, on m'attaque pour dénigrement. Parce que j'ai l'impression que personne ne veut aller sur le terrain de la diffamation, donc on m'attaque pour dénigrement, ce qui est beaucoup plus facile pour me faire taire. Donc on a exigé de moi la fermeture de mon premier blog avec une astreinte de 2000 euros par jour. Et j'ai quand même décidé de réouvrir un blog et de maintenir la pression parce que j'ai décidé que je ne me tairai pas.
Mais quelle est la différence entre le dénigrement et la diffamation ?
Le dénigrement, c'est que je porte atteinte à l'image honorable du groupe.
Mais si tout ce que vous racontez est vrai, ça paraît...
C'est pour ça qu'on ne m'attaque pas pour la diffamation, parce qu'ils savent très bien que je possède des éléments et des documents qui prouvent ce que je dis, parce que je fais très attention à dire des choses dont je suis sûr et dont j'ai les preuves. Et certaines de ces affaires sont bien sûr couvertes aujourd'hui par la prescription. Et que si on m'attaquait pour diffamation, il faudrait que je m'explique et qu'on réouvre les dossiers.
Mmh. Oui, mais ça paraît difficile de vous attaquer de l'un. Enfin, vous voyez.
Donc je pense qu'on n'en a pas envie au sein du groupe.
D'accord. Vous ne nous avez pas dit pour quelle raison vous avez quitté le groupe
Alors moi, j'ai travaillé 27 mois comme prestataire sous le commandement de Carrefour, bien sûr, hein, puisque j'étais envoyé un petit peu partout en France. Et puis, à un moment donné, on a essayé de m'écarter. J'ai mis un petit peu de pression pour qu'on respecte les engagements pris envers moi, c'est-à-dire m'embaucher. On m'a fait un contrat au bout de 27 mois avec une période d'essai de 3 mois. Et au bout de cette période d'essai de 3 mois, on m'a dit que j'étais pas tellement compétent et qu'on me renouvelait cette période d'essai pour pouvoir juger si j'étais capable de tenir un poste dans la sécurité. Et puis j'ai dit, ça m'intéresse pas de renouveler, je préfère partir. Et donc j'ai claqué la porte et j'ai été viré, quoi. On m'a dit, fin de période d'essai, au revoir monsieur.
Aujourd'hui, à part des avocats comme de fils et puis peut-être les aides que vous avez demandées, vous êtes seul dans votre lune ou on vous soutient dans la région ?
Je suis seul, la solidarité n'existe pas. La solidarité n'existe pas. Il y a des gens aujourd'hui qui commencent à se rallier un petit peu à moi et à me communiquer des infos, des choses qui me permettent de maintenir une certaine pression. Mais au niveau du combat, non, je suis seul. Les gens ont peur, les gens ont pas envie de témoigner. Hein.
Vous vivez avec une assurance chômage ou d'autres types de ressources
Pour l'instant, oui, je suis au chômage. Oui.
Et bien évidemment, le fait que vous parliez a des conséquences sur votre recherche de vie professionnelle au niveau de sécurité ou pas ?
Évidemment, oui. C'est terminé, hein. C'est fini, c'est évident.
C'est-à-dire que, derrière la plainte, la procédure judiciaire, il y a le fait de vous casser socialement et professionnellement.
J'ai une belle étiquette et puis c'est fini pour moi. Il faut que je songe à changer d'orientation.
Ouais.
Ce qui ne sera pas un mal pour moi parce que je n'ai pas envie d'y retourner.
Je comprends. C'est une carrière de journaliste d'investigation qui souffre pour vous.
Eh bien, pourquoi pas, oui. dans d'autres buts.
Eh bien, écoutez, nous, ça nous a fait très plaisir juste de vous recevoir. C'était la moindre des choses.
Je vous remercie.
Il n'y a pas de quoi. De toute façon, à agir ensemble contre le chômage, on est contre ce genre de pratique et on dénoncera vigoureusement. Écoutez, vous avez mes coordonnées personnelles. Recontactez-nous. Nous, on va essayer de vous trouver des soutiens sur Paris, ne serait-ce que même un petit peu financièrement au niveau procédure juridique. On va en parler assez pour que vous soyez plus seul et sans contrepartie parce que on trouve que ce témoignage est assez exceptionnel et on est quand même dans un pays de droit. Je suppose qu'aujourd'hui, les inspecteurs et les conseillers du travail sont complètement persona grata dans ce genre d'entreprise.
Oui, c'est ça. Bon, on les voit, mais on se porte.
Et il y a toujours des bons prétextes pour qu'ils ne puissent pas venir ou trop se déranger.
Pour qu'ils ne puissent pas faire ce qu'ils ont à faire, surtout. Dernièrement, il y a quand même un directeur qui a été condamné en nom propre pour avoir dissimulé des éléments à l'inspection du travail, juste comme ça.
Très bien.
Ou avoir transmis de faux éléments.
Écoutez Régis, je crois que le message est très clair. Je rappelle le titre de votre livre, Flic de supermarché, l'espion qui venait du rayon frais, ne serait-ce que par fraternité et solidarité. Achetez ce livre qui est vraiment un témoignage assez bouleversant et puis terrible sur certaines pratiques qui sont d'un autre âge. Je vous remercie de nous avoir appelé Régis. On vous souhaite un bon courage et on pense à vous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
On se retrouve après une petite pause musicale.
la maison. Elle me dit souvent bon, que j'ai une tête d'enterrement. Et je ferme les yeux.
Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi, l'émission d'ACAC, c'est Agir ensemble contre le chômage. Vous pouvez le constater, cher éditeur, j'ai reçu il y a quelques minutes Régis Sérange qui a témoigné sur son travail de vigile dans un grand supermarché d'une enseigne comme Carrefour. C'est absolument hallucinant, Ludovic. C'est assez stupéfiant.
Oui, bah, écoute, les mots nous manquent hein, parce que, je sais pas, c'est entre 1984, oui, c'est ça, et Big Brother. C'est dingue. On est vraiment dans une époque où finalement l'industrie, les entreprises, il y a une espèce de fascisation de la société. C'est, le mot n'est pas trop fort hein, au vu des pratiques qui ont été amenées, où finalement l'entreprise devient une espèce d'état totalitaire dans l'état. Quoi.
Puis il y a toujours le fameux processus de culpabilisation dans nos traditions judéo-chrétiennes qui fait que vous avez commis une faute, donc vous êtes coupable et on joue à fond là-dessus.
Ah, mais totalement, oui, totalement, parce que les gens après ça, évidemment, ils sont brisés et on lui a pas vraiment posé la question. Du traitement réservé aux syndicalistes, mais on s'imagine qu'à limite, il n'y a plus de syndicats à Carrefour depuis belle lurette.
Hein. Oui, on doute bien. Ouais. Alors, on va revenir, chers auditeurs. Vous pouvez bien sûr réagir au 01 40 05 06 10. 01 40 05 06 10. À ces témoignages stupéfiants. Et j'espère qu'on pourra organiser un petit peu de solidarité. On va essayer de se débrouiller parce que ce mec-là est tout seul et il ne faut pas le laisser tomber parce
non,
que c'est un vrai problème.
Moi, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a quand même une certaine gravité dans les faits qui ont été commis par ces entreprises qui portent atteinte aux libertés publiques, bon ça c'est indéniable, et de liberté aux gens sur leur lieu de travail, et ça dépasse très largement le cadre de la correctionnelle. Il y a des grands avocats qui sont spécialistes là-dedans, qui pourraient parfaitement s'occuper de ce dossier et obtenir des condamnations lourdes contre tout simplement les entreprises hein, qui sont en cause. Simplement il faut effectivement faire du travail militant, contacter ses avocats,
nos réseaux dans la presse
la presse le livre s'est bien vendu, mais dans le cadre des procédures entamées, des procédures contre Carrefour. Je rappelle que dans la grande distribution, c'est pas les premières affaires qui puent, qui sont sorties hein. On avait parlé il y a quelques mois de cette escroquerie aux cotisations salariales et patronales qui avait eu lieu justement dans la grande distribution et par les prestataires de services qui travaillaient dans ces grandes distributions. Tout le monde avait escroqué le fisc et avait fait travailler les gens dans des conditions qui sont épouvantables. Aujourd'hui, les directeurs des grands groupes sont devant les tribunaux, ils sont poursuivis au pénal. Or, ce qui est arrivé à tous ces salariés ne relève pas des prud'hommes, mais relève en très large partie du pénal.
Du pénal, oui.
Et espérons que les directeurs de ces groupes seront traînés au pénal un jour ou l'autre.
Ouais, et sanctionnés comme juste le droit. Alors, on va revenir, sur un autre sujet qui est le chômage apparent et chômage réel. C'est-à-dire que nous avions invité en début d'émission par rapport aux chiffres officiels du chômage du mois d'août. Donc, en France, le nombre réel de chômeurs n'a pas baissé depuis 9 ans. En effet, certes, de 1996 à 2005, le chômage apparent ou chômage officiel a diminué de 21%, en passant de 3 062 000 à peu près inscrit à 2 419 000, sauf que c'est la catégorie 1, c'est-à-dire que on ne parle que des gens qui sont indemnisés ou inscrits officiellement. C'est-à-dire que, or, je le rappelle, et France Inter avait fait un sujet, sur ce point ce matin, il existe en réalité 9 catégories de chômeurs, c'est-à-dire ce qui fait qu'on arrive en un total de 5 745 000 demandeurs d'emploi en 2001 pour aujourd'hui à 5 800 000, 48 000 demandeurs d'emploi. Donc en réalité, le chômage n'a pas vraiment baissé, bien au contraire, sachant que parallèlement à ça, le chômage à temps partiel a vraiment un peu explosé, puisque on en compte à environ 22,4% de chômeurs à temps partiel en 1996 et qu'aujourd'hui on en est à 20,79% en 2005. Alors on se peut dire ça bouge pas trop, mais ce qui est encore plus grave, c'est que parallèlement à ça, il y a eu de plus en plus d'arrivées d'actifs sur le marché du travail, Donc, ben, ce chômage ne baisse pas, mais en plus, la condition globale et le temps partiel fait que on est vraiment dans une situation de précarisation et de flexibilité de plus en plus forte. Même si la proportion d'emplois à temps partiel est plus importante qu'en France, dans certains pays comme les Pays-Bas, les Royaumes-Unis, mais c'est, on voit bien là, en fait, une logique ultra-libérale qui s'est installée peu à peu, progressivement, mais sûrement.
Oui, bah oui, en fait, c'est l'Angleterre et c'est l'américanisation de notre société, puisque ça fait un petit moment qu'on constate que outre-Atlantique, pour donner un chiffre, hein, un tiers des SDF ont un travail et un travail à temps plein et qu'ils cherchent.
Faut pas l'oublier.
Voilà, non, mais il faut surtout pas l'oublier, mais c'est surtout ahurissant, puisqu'une fois qu'ils ont fini leur boulot, ils vont chercher un endroit où dormir, quoi. Voilà, et le lendemain, ils se pointent. Et aujourd'hui, en France, on est dans la même. Ces chiffres-là qu'on a constatés il y a quand même 5 ou 6 ans aux États-Unis, ben, aujourd'hui, on est en plein, puisqu'effectivement, en France, un tiers des gens qui sont SDF, ne sont pas des SDF, ils ont un travail et ils n'ont pas de
alors c'est souvent du temps partiel, mais ils ont un travail.
Ils ont un travail, bien sûr, et bien entendu, c'est de plus en plus. Oui, il y a des foyers avec la crise du logement ces derniers temps. D'ailleurs, là, l'affaire, pour te dire, c'est que l'affaire a même touche même les fonctionnaires de la ville de Paris, les cadres C, qui
on en avait parlé.
Voilà, qu'on en avait parlé, qui suite à un incident de parcours dorment dans leur voiture ou dans leur banc. Alors pour oui, effectivement, hein, les chiffres aujourd'hui deviennent tout à fait ahurissants, quoi.
Alors par rapport à ça, je vais revenir avec toi, Ludovic, sur les négociations dans le cadre de la convention au niveau de l'UNEDIC et les propositions du MEDEF, puisque je rappelle qu'à l'appel notamment d'AC et des différentes associations comme MNCP, Stop Précarité, Génération Précaire, il devait y avoir une grande manifestation ce mardi 26 septembre, puisqu'au siège du MEDEF, on l'avait signalé la semaine dernière, devaient débuter les négociations qui ont été reportées.
Pour 15 jours exactement, à la demande de Laurence Parisot. Pour quel motif, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que alors la convention UNEDIC, hein, courait en principe jusqu'en 2009, mais le MEDEF a bien l'intention de renégocier cette convention pour réduire, autant le dire tout de suite, les droits à l'indemnisation, la durée et le montant de l'indemnisation pour réduire le déficit. Mais c'est le débat autour de cette question, ça va être un peu plus large, puisque elle a déclaré que cette première réunion servirait à lancer officiellement les travaux de délibération sociale autour du sujet de la réforme du marché du travail. Alors, la réforme du marché du travail, qu'est-ce que c'est selon le MEDEF? Eh bien, d'abord, effectivement, la remise à plat de l'assurance chômage, comme on en a parlé, et l'appréciation de l'efficacité du système actuel. C'est dans le texte, hein. Et des voies et des moyens d'une amélioration du retour à l'emploi. Et de réfléchir aux champs respectifs de l'assurance et de la solidarité. Donc, en clair, puisque c'est pas très clair, quand on entend champ respectif de l'assurance et de la solidarité, l'assurance c'est l'assurance UNEDIC, solidarité c'est solidarité nationale, c'est celle de l'État. C'est-à-dire que depuis quelques années, les chômeurs exclus du système d'indemnisation sont en prise en charge par l'État, de telle sorte en quelque sorte que le patronat se défausse finalement de son rôle d'indemnisateur ou d'aide au chômage pour faire porter de plus en plus une majorité des chômeurs, sur 50% des chômeurs, sur les minima sociaux, c'est-à-dire le RMI, l'ASS ou les allocations pour adultes handicapés. Et c'est ça, en fait, la logique qui est proposée le prochain programme qui sera proposé aux syndicats lors de ces négociations.
Alors, c'est pas une logique, je vais faire un petit commentaire par rapport à cette situation-là. C'est pas une logique qui est du tout faite au hasard, puisque il faut savoir que les produits financiers et immobiliers aujourd'hui sont beaucoup moins taxés que le salarié de base qui paye son impôt sur le revenu. Donc le coût de cette pauvreté, cette précarité doit être supporté par la collectivité et chacun d'entre nous, puisque moi-même je paye des impôts par manière par rapport à ce que je touchais, et le patronat qui s'engraisse grâce aux aides de l'État entre autres et grâce à l'actionnariat, lui ne devrait rien payer. Donc en résumé, c'est un vrai scandale. C'est la même logique de on gratte les droits sociaux des gens.
Mais c'est même pire que ça, parce que à la limite, cette histoire de report perpétuel de la misère aux frais de l'État, l'État lui-même aujourd'hui a du mal à supporter cette charge. Non pas que financièrement il n'en ait pas les moyens, mais plutôt que il a décidé de confier la gestion, cette gestion au département. En instituant le RMA, entre autres, et en décentralisant, aujourd'hui la gestion du RMI relève du département. Or, les départements attendent toujours les transferts de compétences. Enfin, les transferts de fonds, plutôt. Les transferts de compétences, ils les ont. C'est les transferts de fonds qu'ils attendent pour pouvoir, les transferts de budget, pour pouvoir, à leur tour, assumer le RMI. Donc, assumer les minima sociaux. Donc, à terme, on peut se dire que il est probable que dans certaines régions, l'indemnisation des RMistes n'ira pas de soi. Et que même, elle sera déficiente.
Tout à fait. Alors, ça, c'est intéressant parce que ça va mettre, je rappelle à nos chers éditeurs, une petite logique, qu'il y a derrière tout ça. C'est que ce transfert de compétences, du fait des lois de décentralisation, c'est fait au moment où les 22 régions passaient dans un autre bord politique, principalement, et que c'est un cadeau empoisonné qui leur a été fait, puisque ces gens-là, pour devoir ne pas assumer un déficit colossal du fait de cette aide sociale, vont sûrement être dans l'obligation d'augmenter les impôts, ce qui est totalement impopulaire en termes d'électorat.
Et notamment des impôts locaux des régions les plus pauvres. Soyons clairs, le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis, Paris. Paris, c'est pas le plus pauvre, mais bon.
Alors que cet argent pourrait être consacré à autre chose, notamment créer des emplois, et que l'État, en régulant notamment en arrêtant les exonérations fiscales et patronales pour les bas salaires, entre autres, etc., pourrait très clairement calmer et agir au niveau de cette aide sociale. On se retrouve après une petite pause musicale. You buy the love as long as your heart can sell. You never can tell. You suck the blood of men, the love running through the veins. You're preaching in vain. Et oui, vous êtes toujours sur Fréquence Paris pour Régional 106.3 dans l'émission d'AC. AC, c'est Agir Ensemble contre le chômage. Ce soir, Carré Rock, c'était Pockets and Light Sardine des Hush Puppies, qui est un groupe de rock français qui chante en anglais et leur album, c'est The Trap. Bonsoir à tous et à toutes. Re-salut Ludo.
Bonsoir.
Alors, on va continuer sur cette histoire de retour à la convention UNEDIC et les négociations du MEDEF, etc., etc.
Voilà, oui, le MEDEF, lui, a un vrai projet de société. Depuis 2001, on le sait. Et donc un de ses axes, c'est de trouver un contrat de travail unique. Alors on ne sait pas ce que c'est, parce qu'un contrat de travail unique, il faut rappeler qu'avec toutes les dérogations que tu as introduites dans les contrats de travail, aujourd'hui on se retrouve avec une pléthore de contrats de travail et des droits de travail qui font exception par rapport au code du travail, entre autres le fameux CNE ou le CPE qui n'a pas vu le jour. Donc effectivement, le contrat de travail unique peut, dans le sens de Madame Parisot, effectivement une extension du CNE. Le CNE, je rappelle que c'est un contrat où pendant 2 ans vous êtes virable à tout moment. C'est ça, à tous les types de contrats et à la disparition du CDI et du CDD.
Alors voilà. Ça, c'est un des grands objectifs du MEDEF. Ils ne l'ont jamais caché. C'est leur grand projet de civilisation 2001, c'est mettre tous les salariés ou employables dans la précarité la plus totale et à la menace d'être virés à tout moment. Pour faire quoi? Pour instituer une forme de totalitarisme au niveau du marché du travail et du monde du travail, puisqu'il y aura de fait plus de contre-pouvoir possible par rapport à ça.
Ben surtout, il n'y a plus de droits, parce qu'à partir du moment où vous êtes virable à tout moment, vous n'allez pas faire respecter vos droits. Et c'est un coup de canif important à votre sécurité, tout simplement, et au fait que vous puissiez réclamer, je ne sais pas, des heures supplémentaires, non payées, des vacances éventuellement, voire un salaire qui soit légal, qui soit au minimum. Donc ça, évidemment, c'est les pleins pouvoirs donnés totalement à l'employeur. Mais il y a aussi plus inquiétant, quoi, que bon, ça soit déjà pas mal, c'est que finalement le MEDEF et monsieur Borloo et donc le ministre, notre ministre du Travail, se sont rencontrés récemment pour envisager une loi qui serait déposé au cours de l'année prochaine au Parlement. Donc un projet de loi qui viserait à améliorer le dialogue social en France.
Alors, qu'est-ce à coup ?
Alors, déjà, le dialogue social en France, ben, on ne sait pas trop. Alors, dialogue social, je rappelle qu'on entend par là principalement les négociations patronat-syndicat qui se tiennent principalement sur l'UNEDIC, puisque c'est le problème majeur aujourd'hui des partenaires sociaux.
Et je rappelle d'ailleurs que les représentants des associations de chômeurs, qui sont les premiers concernés, sont exclus et n'ont pas de voix au chapitre à ce niveau-là.
Absolument.
Mais apparemment, alors, nous avons un auditeur en ligne qui souhaiterait réagir.
Oui, mais avant qu'il réagisse, je voudrais quand même terminer mon propos, parce que le dialogue social en France, il faut savoir que, et tous les spécialistes vous le diront, depuis 50 ans, ça n'a jamais vraiment fonctionné. C'est-à-dire qu'il y a, officiellement, il y a deux partenaires. En réalité, il y en a un troisième, c'est l'État. Et c'est l'État qui réglemente ou qui avalise le résultat du dialogue social. Donc il dit ça, c'est conforme à la loi, ou ça, c'est pas conforme à la loi, ou à la limite je peux changer la loi. En tout cas, ce qui est sûr, je donne mon agrément pour décréter que ce dialogue social soit valable. Deuxième entorse au deuxième petit problème, c'est que les syndicats qui sont représentés par exemple à la convention UNEDIC sont ceux qui datent de 1945, tout simplement parce que ce système a été créé au moment de la résistance et qu'on a intégré ces syndicats là sans revoir jamais
le mode de fonctionnement et d'élection,
ce qui fait qu'en fait un grand nombre de syndicats comme Sud par exemple ou de petits syndicats sont totalement exclus de la discussion et des négociations. Troisième petit problème, pourquoi l'État met son veto en fait et son grain de sel régulièrement dans ces histoires, c'est que il y a à peu près 3 ou 4 syndicats patronaux qui sont en général toujours unis contre 3 ou 4 syndicats de salariés. Or, il suffit de 50% des syndicats présents autour de la table pour avaliser un accord. Donc, ou 51% exactement. 50%, c'est les organisations patronales. Il se trouve toujours un petit syndicat ou un syndicat plus grand mais réformiste pour appuyer en général les demandes.
En général, la CFDT.
Mais ça peut être la CGC aussi.
La CGC qui a foutu en l'air le droit du travail, il faut le dire.
Entre autres. Mais même pour les intermittents du spectacle, le système est le même et on a été chercher un syndicat de chefs d'orchestre qui représentait 15 personnes pour avaliser la convention. Voilà, donc ça, c'est une grande revendication des syndicats, c'est de pouvoir de faire en sorte que les syndicats soient d'abord d'accord entre eux, à la majorité, à 50%, pour ensuite donner leur aval à la convention UNEDIC ou au patronat. Donc évidemment, ce système n'a rien de démocratique. Ce système marche très mal, puisque finalement, c'est l'État qui en permanence dicte un petit peu, commande aux partenaires sociaux de s'entendre. Or, ce que propose Madame Parisot, c'est justement de faire en sorte que l'État s'occupe désormais des grands principes d'ordre public. Donc il faut comprendre la police, les choses comme ça. Mais que en revanche, il laisse le soin totalement libre au dialogue social, c'est-à-dire à l'organiser aux accords entre syndicats et patronat, compris si c'est régressif.
Oui, effectivement, c'est un vrai problème et une aberration démocratique par rapport à ça. Alors, on avait un auditeur en ligne, excusez-nous, on a été un petit peu long, mais c'était extrêmement important d'évoquer ce sujet parce que là, on est dans une vraie problématique de société. On nous parle du matin au soir du dialogue social, de la nécessité de négociation, et on se rend compte en fait qu'au niveau du système qui est mis en place, de la parole entre chacun pour pouvoir décider en commun, c'est un système qui est biaisé, ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans les pays scandinaves, où les règles du jeu sont nettement plus claires et formulées de façon nettement plus démocratique.
Et absolument démocratique. Et je voulais donner un exemple, enfin un résultat plutôt, de cette fameuse négociation sociale, un résultat concret pour les chômeurs.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors tiens, donne un
voilà,
exemple.
Voilà, c'est exactement un exemple. Donc en 1979, il suffisait pour un salarié d'avoir cotisé 3 mois pour avoir droit à l'indemnisation. Aujourd'hui, et à l'exception des intermittents du spectacle, il faut avoir travaillé 6 mois dans les 22 derniers mois. Bon, pour être exclu de l'assurance chômage. Donc ça, déjà, ça veut dire que on a réduit progressivement les droits. Alors, ce petit jeu d'allongement de la durée du travail a conduit quand même à l'amputation de 187 000 personnes ces dernières années. Du droit à l'assurance chômage. Donc, ça les a rejetés vers le RMI ou l'ASS. Voilà. Dernièrement, il ne sera plus possible de cumuler à la fois une allocation et un travail, si on travaille plus de 110 heures d'emploi mensuel. 110 heures, ça représente, j'ai calculé, 27,5 heures par semaine. À partir de ce moment-là, vous toucherez votre plein salaire et vous ne pourrez plus toucher votre salaire et être compensé, un salaire compensé par la CEDIC.
Ce qui est inadmissible, parce que du fait des lois des 35 heures, on arrive au droit à la flexibilité pour tous et à des contrats du genre 30 heures ou 20 heures sans avoir aucune
compensation. Alors ça, justement.
Et là, on crée des travailleurs pauvres, de fait.
Exactement. Et là, on a la preuve par le fait qu'effectivement, on n'est pas dans le modèle de la flexu-sécurité danoise que nous a inventé notre Premier ministre, parce que les Danois, ils font exactement le contraire. C'est-à-dire que dans la mesure où ils acceptent, et on l'a dit à cette antenne, de précariser leurs travailleurs, ils acceptent que le temps partiel soit très fort, et il n'y a pas que les Danois, la Hollande, tous les pays nordiques. En contrepartie, ils augmentent énormément leur indemnisation pour que les gens puissent s'y retrouver et qu'ils ne soient pas deviennent des travailleurs pauvres, qui soient d'ailleurs un danger pour la paix sociale.
Oui, entre autres. Alors, dans le même ordre d'idée de cette logique libérale, on voulait vous parler d'un dernier élément qui est absolument... qui est très symptomatique en fait de ce qui se passe aujourd'hui en France et qui est nouveau, c'est l'arrivée de Genworth Financial. Et Genworth Financial, c'est quoi ? C'est une assurance complémentaire de chômage, une assurance privée. En effet, cet organisme qui est spécialiste en assurance emprunteur et en perte financière lance l'assurance complémentaire chômage pour les cadres et les non-cadres. Ce produit est mis à disposition, devinez à qui ? Eh ben, aux banques et aux courtiers d'assurance. Et selon son responsable, dans l'étude que nous avons publiée en juin 2006 avec l'Institut Ipsos sur la façon dont les salariés anticipent le chômage en France et en Allemagne, nous avons constaté que non seulement le risque de chômage était un souci majeur, mais que près d'une personne interrogée sur deux pense que ce risque a des chances de se réaliser dans les 5 prochaines années. Et ils proposent donc une assurance qui leur permettrait de maintenir leur niveau de vie en cas de chômage, bien évidemment. C'est un commentaire de Frédéric Guest, qui est responsable du développement de Genworth Financial pour l'Europe centrale. Alors voilà comment va financer cette garantie de complémentaire chômage. Il y aurait une couverture forfaitaire de 100 à 1000 euros par mois, sans référence au salaire, et donc totalement en dehors des éventuels changements de règles de l'UNEDIC et des ACEDIC, ce qui pose là un petit problème. Et le prix est construit par parnier. Donc si tu cotises 9 euros par mois, et tu as une période, tu auras le droit à un complément pendant tant de mois. Sauf que le petit problème, devine quoi ? Il y a des critères d'attribution pour pouvoir bénéficier de ce produit financier, je le rappelle. D'abord, il faut être en CDI au moment de la souscription. Donc les gens qui aujourd'hui vivent la précarité n'y ont pas le droit. Il faut avoir moins de 52 ans, comme par hasard. Et par ailleurs, et bien évidemment, la durée de couverture augmente avec la durée de cotisation. C'est-à-dire que si tu cotises 12 mois, tu pourras être couvert pendant 6 mois. Si on cotise 24 mois, on sera couvert pendant 12 mois, et ainsi de suite, jusqu'à 24 mois de couverture. Sauf que moi, je trouve ça un peu aberrant, parce que cet argent qui va être récolté va bénéficier au système des fonds de pension américains et ultra-libéral.
Et puis même, c'est ceux qui le paieront, c'est ceux qui pourront justement prendre une assurance, c'est-à-dire les gens revenus supérieurs. Tu penses bien que quelqu'un qui gagne au SMIC, il va avoir du mal à cotiser je ne sais pas combien d'euros par mois pour se prémunir en plus d'une assurance personnelle. En fait, c'est une entorse à l'aspect collectif, à la protection collective contre le chômage.
Oui, et par rapport à ça, je rappelle que c'est le fait de l'absence de protection et de droits nouveaux est un des grands objectifs du MEDEF et de la droite, du patronat et de la droite aussi.
En résumé, c'est comme si on disait « démerdez-vous tout seul ». Désormais, pour vous prémunir, pour l'assurance, pour la sécurité sociale, pour le chômage, démerdez-vous tout seul, financez-vous tout seul, et rentrez surtout dans le jeu des mécanismes financiers qui permettront de vous protéger. C'est beau.
Sachant que nous savons très bien, et j'en terminerai sur ce point, que grâce à des choses comme Enron, des scandales comme Enron, les fonds de pension ne marchent pas et créent des faillites pour les gens qui ont cotisé toute leur vie.
C'est vrai qu'on n'est pas aux États-Unis et que ni en Angleterre, mais il faut rappeler quand même que les salariés d'Enron ont perdu toute leur retraite dans la faillite de leur groupe et parce que ils avaient dû cotiser à la caisse de retraite de leur entreprise. c'était un des grands succès de la spéculation financière concernant les fonds sociaux, quoi, les fonds de protection sociale.
Tu voulais rajouter très rapidement.
Oui, alors très rapidement, je voulais juste parler du livre de Jacques Cotta qui s'appelle 7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes. C'est chez Athènes Fayard, librairie Athènes Fayard, et ça vaut absolument le coup. Vous apprendrez tout ce qu'il faut sur ce que je parlais en début d'émission sur les SDF qui travaillent.
Et les travailleurs
aujourd'hui,
pauvres que nous sommes.
Les chiffres qu'ils nous donnent sont impressionnants. 7 millions de salariés perçoivent un salaire inférieur à 722 euros, ça fait 4700 francs. 12 millions au moins de 843 euros de revenus mensuels. 300 domiciles fixes sur 10 ont un boulot à temps complet, partiel ou précaire, gagnent souvent entre 900 et 1300 euros. Ils sont SDF et cherchent pourtant soir après soir où dormir. Et entre la moitié et les deux
alors
tiers.
Alors, c'est auquel édition?
C'est Athènes, librairie Athènes Fayard.
7 millions de temps de travailleurs pauvres.
7 millions de travailleurs pauvres, la face cachée des temps modernes, c'est de Jacques Cotta qui était journaliste à France Inter et qu'on essaiera évidemment de recevoir ici. À Radio France.
Voilà. On vous souhaite tous une très très bonne soirée, un bon week-end. Voilà. Bonsoir à tous. Cette émission se termine. Salut.